fidélité au programme de VOA Afrique. Je vous retrouve tout.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec les auditeurs. À votre avis, nous allons parler de la lutte contre le terrorisme et les capacités des armées africaines à faire face à ces groupes djihadistes, notamment au Sahel. Nous posons le débat au lendemain de l'annonce du président français Macron d'une réduction des troupes françaises dans le Sahel, mais également de la mise en place d'une alliance internationale. Nous posons également le débat au lendemain du massacre, disons quelques jours après le massacre de Solane au Burkina Faso. Cette décision française se traduira par la fermeture de bases française, mais les forces spéciales resteront dans la région. Pas de réaction pour le moment dans les capitales africaines officiellement, notamment à Bamako, mais c'est une annonce qui est largement commentée dans la rue et également sur les réseaux sociaux. Quel type de coopération avec les puissances occidentales, pas seulement la France, mais aussi les États-Unis, la Russie, dont on parle d'ailleurs de plus en plus ces derniers temps? Comment les armées africaines peuvent-elles prendre le devant dans cette lutte contre les groupes terroristes? Nous allons parler de tout cela avec vous, les auditeurs. On a déjà trois auditeurs. D'abord, Asmaïlou à Lomé, au Togo. Asmaïlou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, quelle est votre position sur ces dernières annonces du président Macron concernant une réduction des troupes de Barkhane?
D'abord, moi, je souhaitais que cette annonce ne soit pas de cette manière. Il devrait décider même que les forces françaises quittent même presque toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit dans mon commentaire, ce sont les amateurs de ces terroristes. C'est eux qui les financent au fond, si on veut bien regarder. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir un groupe, on ne sait pas au juste ce que ce groupe veut de son pays, bien de sa population, en les tuant. On ne peut pas savoir ça, est bien armé, avec un bon équipement par rapport à celui du gouvernement ou bien à celui de l'État.
Mais est-ce que vous pensez que les armées de ces pays sont prêtes à faire face à ces groupes, comme vous le dites, très bien armés?
Oui, bon, d'abord, si le virus même disparaît, le virus, comme moi je l'ai dit, si le virus disparaît, je sais que la décision vient d'abord aussi au niveau de nos dirigeants qui détiennent nos institutions comme l'Union africaine et la CEDEAO ou autres. Parce qu'eux-mêmes, ils ne prennent pas de décision tant qu'ils sont là pour diriger leur pays et protéger leur peuple. Ils sont là pour juste un intérêt. Sinon, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas chercher. Oui, allô.
Si je vous comprends bien, vous pensez que, disons, la CEDEAO, l'Union africaine, devrait aussi s'engager beaucoup plus dans la lutte contre ces groupes pour venir...
Oui, ils devraient décider. Ils devraient décider, prendre le tour, parce qu'on sait que le mal qui est, ce n'est pas un mal extérieur, mais c'est financé par l'extérieur. C'est nos propres frères qui sont au pays, qui sont financés par l'extérieur et... ils continuent de nous tuer, nos enfants, nos femmes, tous. Donc, si la CEDEAO, ces institutions prennent leurs bras à corps et ils cherchent les moyens pour bien armer nos soldats, bien armer, mettre le gouvernement en place pour que l'ordre soit mis, je pense que cela serait au moins un défi pour au moins 80 bien à 70% combattre ces terroristes-là. Ils n'auront plus de refuges où ils vont réfugier. Je pense qu'ils ont certaines qui les couvrent et ça continue de voler de temps en temps. Et le mal ne finit jamais.
Voilà, merci beaucoup Asmaïlou. Depuis Lomé au Togo, nous avons Aboubakar Djalabi Bachir à N'Djamena au Tchad. Bonsoir Aboubakar.
Oui, bonsoir. Merci de m'avoir accordé la parole et merci aux auditeurs. La radio VOA.
Alors, Paris estime qu'il est temps que ces pays africains s'engagent davantage. Donc la France ne va pas totalement partir, mais vous pensez que les armées africaines sont prêtes à relever le défi?
Oui, Oui, moi je suis. Moi je pense que l'armée africaine peut faire face aux différents groupes de terroristes qui font toujours des incursions au Sahel. Mais à condition que nos dirigeants ne suivent pas, notamment la France, et il faut qu'ils retournent aux côtés de la Russie pour avoir des meilleurs outils de sur les armes et avoir aussi des moyens pour faire face.
Vous parlez de moyens militaires. Qu'en est-il du renseignement également? C'est important.
Pardon?
Le renseignement dans cette bataille contre ces groupes, le renseignement est également très important, non? C'est pas seulement une question de moyens militaires.
Oui, c'est ça même. Effectivement, le renseignement est important pour cette bataille. C'est la raison pour laquelle je l'avais souligné, que il faut qu'il retourne aux côtés de la Russie et un peu plus aux États-Unis d'Amérique pour avoir de meilleures armes, un peu plus sophistiquées de renseignement. Mais la présence de la force Barkhane n'est pas un peu plus bonne en Afrique. Elle est toujours aux côtés du pillage.
Mais avant de vous laisser partir, vous soupçonnez les troupes Barkhane, mais vous n'avez pas de problème avec les Russes ou les Américains?
Non. Moi,
pourquoi?
Mon problème, c'est avec la force Barkhane, c'est avec la France. C'est la France qui est toujours derrière tous ces problèmes. C'est la France qui est derrière cette secte. C'est la France qui a même souvent tenté à même de le soutenir.
Bon, merci beaucoup, Aboubakar. On a bien compris. Nous allons au Niger retrouver Oumarou. Oumarou, bonsoir.
Bonsoir, la VOA.
Vous nous appelez de Niamey, c'est ça?
Non, je vous appelle Kanda, dans le département de Gaya, région de Dosso.
D'accord, merci beaucoup. Alors, vous dites que les armées africaines peuvent faire face seules aux groupes terroristes. On vous écoute.
Oui, l'armée africaine fait face au groupe terroriste en une seule condition. Il devrait écarter l'armée française. Si nous regardons la situation, dans une région où l'armée française a déployé 50 000 hommes, incapables de détruire des hommes armés, sans formation, là, il y a une lutte dans cette affaire.
Oumarou, oui. On peut aussi faire le même reproche aux armées africaines.
Non, écoutez, l'armée africaine aujourd'hui est dictée par l'armée française dans la région. Il y avait des camps où même l'armée africaine ne peut même pas rentrer. Ça existe. Au Burkina, ça existe au Niger. Si nous regardons ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso la fois passée, là c'est un complot. Par comment il y avait des moyens de communication, des hommes armés qui tuaient plus de 100 personnes sans la réaction de l'armée internationale, sans la réaction de l'armée locale. Par comment? Là, il faut savoir, si nous voulons que la paix, les terroristes soient détruits dans la paix, il faut que l'armée française se dégage. On amène l'armée américaine ou bien l'armée la Russie.
Non, mais la question, d'accord. Et, il faut élargir la coopération en incluant d'autres pays, n'est-ce pas?
Américain, Chiro, oui.
Mais
sinon,
est-ce que...
Les terroristes, c'est la France, hein.
On ne peut pas lancer quand même des accusations sans preuve. Moi, je ne peux pas cautionner cela. Excusez-moi, je vous pose la question.
Moi, je peux le dire parce qu'on a marre de ça, parce que nos familles, nos grands-mères, nos petits-enfants, ils n'ont rien à manger.
D'accord.
Ils prennent des sacs à dos.
C'est votre... D'accord. Oui. Merci, Oumarou. C'est votre point de vue. Mais je reviens à ma question originale. Les armées africaines, quel est le rôle dans tout cela, les armées nationales de ces pays? Qu'est-ce qu'ils font?
Le rôle, c'est ce qu'ils devront faire.
Oui, vous me parlez de l'appui des Américains et des Russes. Je vous demande, les armées africaines, qu'est-ce qu'elles peuvent faire en ce moment?
Ils peuvent créer une seule compagnie d'internement. Hein?
D'accord.
Avoir une seule accès à la communication, contrôlée par des hommes fiers, des hommes capables, des hommes dignes. C'est-à-dire que même dans l'armée, il y avait des titres.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, à Oumarou.
Oui.
Depuis le Niger, nous retournons à N'Djamena, retrouver Jim Rangar, Tewadoum. Jim Rangar, vous êtes avec nous? Osana, on va essayer de le retrouver. Il est là, Jim Rangar. Bonsoir. On va aller en attendant à Kinshasa retrouver Alphonse Mbaki. Bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Oui.
Moi, je pense que les armées locales d'Israël ne sont pas encore prêtes pour faire face au combat contre les djihadistes. Parce que les combats que les djihadistes mènent contre nos pays sont asymétriques. Et donc, il faut vraiment des gros moyens militaires en termes logistiques, en termes d'enseignement, en termes de capacités militaires, en termes de formation. Les Occidentaux, les alliés des pays du Sahel sont importants. Hein. C'est important. Donc, je pense qu'on a encore besoin d'eux. Je ne comprends pas comment. Les populations du Sahel s'insurgent contre leur présence, alors que ce sont des gens qui nous aident. Donc, je pense qu'ils doivent encore rester, mais pas s'installer dans la durée. Il faut qu'ils donnent des formations. S'ils ont
des engagés.
Allô?
Vous dites s'il faut que les forces étrangères se désengagent, il faut d'abord une bonne formation aux troupes locales. C'est ça que vous voulez dire?
Voilà. Pour laisser la responsabilité aux armées locales. Donc, elles ont besoin de la souveraineté, elles ont besoin de sécuriser leur territoire. Mais maintenant, il faut vraiment que nos armées soient bien formées. Et donc, on a besoin de partenaires étrangers. Vous savez qu'en Afghanistan, les États-Unis sont partis, mais l'OTAN est en train de rejeter le départ parce que là-bas, les talibans consolident leurs forces parce que les puissances étrangères sont. La grande puissance est partie. Là. Donc, je pense que même au Sahel, en Afrique, partout où les armées locales sont en jonction avec les forces étrangères, ce n'est pas encore le temps. C'est pourquoi, moi, je pense que. Les politiques doivent prendre des décisions impopulaires, non pas écouter les populations qui boudent les puissances étrangères. Et encore, il ne suffit pas seulement de rester dans l'option militaire, mais aussi il faut recourir à l'aide au développement. Vous savez que les djihadistes qui sont recrutés, on leur offre 50% de l'heure dans le recrutement, donc à cause de la pauvreté. À cause de la précarité. Donc, il faut non seulement s'orienter vers l'option militaire, mais également vers l'aide au développement. Mais également, il faut impliquer aussi les populations. Parce qu'on dit que ces djihadistes fondent dans la population. Alors, il faut impliquer les populations dans ce combat pour qu'elles dénoncent. Tous les éléments suspects. Donc, moi, je pense que lorsqu'on s'implique dans l'aide au développement, il faut beaucoup plus s'orienter vers l'éducation. Quand les jeunes possèdent des opportunités de vie dans leur pays, je pense qu'il ne faut pas céder aux sollicitations des djihadistes. parce qu'ils trouveront déjà, ils sentiront qu'ils sont déjà bien chez eux, ils ne vont pas se laisser entraîner par les forces qui détruisent leur village. Et puis également, il faut que nos politiciens, nos institutions politiques puissent s'installer dans les frontières, dans les points reculés. Souvent, l'administration militaire et politique s'est concentrée dans
décentraliser.
Ils ont abandonné les frontières, ils ont abandonné les frontières de ces forêts.
Alors, d'accord, oui, je vous comprends. Vous voulez dire qu'il faut aussi décentraliser l'administration, qu'elle soit un peu plus présente dans les contrées, dans les zones les plus reculées. Voilà, merci beaucoup Alphonse Mbouaké depuis Kinshasa. Nous avons Alain. J'ai peut-être le temps de lire un commentaire avant de retrouver Alain. On a François Bayala qui nous dit « Tous les problèmes qui arrivent à l'Afrique peuvent et doivent être résolus par l'Afrique. Malheureusement, elle confie son avenir aux autres, qui sont d'ailleurs, selon lui, la cause de ses malheurs. » Alors, on a Alain Bado au Burkina Faso. Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Voilà, donc, je disais que si Barkhane se retirait, en tout cas dans le nord Mali, vraiment la descente aux enfers pour les différentes armées africaines qui sont engagées dans la lutte contre le djihadisme.
Pourquoi vous dites ça?
Je pense que, en toute sincérité, la région ouest-africaine qui est la plus touchée par le djihadisme gagnerait plus à coopérer avec l'armée française, surtout la force Barkhane, qui dispose d'une logistique vraiment assez importante pour apporter des renseignements sur toute la ligne.
Mais oui, Alain,
est-ce
que la critique ne vient pas du fait que malgré justement ce que vous venez de dire, la présence de la force Barkhane et de leurs moyens, et on n'arrive toujours pas à contrôler la situation dans la région du Sahel, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir cette coopération, ce partenariat pour une plus grande efficacité? En tout cas, c'est un peu ce qu'on entend dans la critique.
Oui, mais justement, on ne peut pas laisser à la France la France uniquement ce rôle de défendre quand même des territoires africains. Il faut coopérer justement. Maintenant, est-ce que ce que la force Barkhane apporte comme logistique, comme renseignement, est-ce que c'est suffisamment exploité par les armées africaines en réalité.
D'accord. Alors, avant de vous laisser partir...
Juste pour faire une petite illustration. On a vu, par exemple, dans le cas du Tchad, comment le président Déby Itno a su, en tout cas, prendre en compte les expériences apportées par la force Barkhane et comment il a pu utiliser ça pour combattre les groupes terroristes de Boko Haram au Tchad. Et à la fin de l'opération, je pense que le président Déby avait dit qu'il n'y a plus d'un seul Boko Haram au Tchad et qu'ils sont de l'autre côté de la rive, entre la frontière entre le Cameroun, le Nigeria et puis le Tchad.
D'accord.
Et c'était à eux d'assurer le reste.
Voilà. Alors, Alain...
Donc, moi, je me dis que... Oui.
Le Burkina est frontalier de la Côte d'Ivoire, qui a aussi été attaqué récemment. C'est un pays côtier. Oui. De même, on sait que des pays comme le Bénin et le Togo sont aussi dans le collimateur de ces groupes. Est-ce qu'il faudrait, il ne faudrait pas penser à un élargissement de cette coalition anti-djihadiste pour inclure des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Sénégal et tous ces pays côtiers aussi?
Oui, justement parce que le djihadisme est un phénomène mondial aujourd'hui. Je pense qu'il y a une nécessité absolue pour toutes les nations, tous les États, quels qu'ils soient, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs dans le monde, il faut une coopération à tous les niveaux.
D'accord.
C'est une situation à tous les niveaux. Au moment où, par exemple, quand on se rappelle de l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, les gens pensaient que c'était une affaire seulement américaine. Après, on a vu que le terrorisme s'est déporté en Europe et puis voilà, ça a gagné toute l'humanité.
Voilà, merci beaucoup Alain Badeau depuis le Burkina Faso et passez un excellent week-end. Alors, Mamadou Sissoko est au Mali. Bonsoir Mamadou. Vous êtes avec nous Mamadou? On va essayer de le retrouver. On a un auditeur du Tchad, il me semble, n'est-ce pas? Sinon, je vais...
Oui, bonsoir.
Jim Rangal, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais mieux vous-même.
Oui, merci beaucoup. Alors, on vous écoute.
Moi, je crois que la lutte contre le terrorisme ne doit pas seulement compter sur les États Sahel ou bien la porte Barkhane. Mm-hmm. La lutte doit être commune. Et donc, tous les pays africains doivent conjuguer leurs efforts. Ceux qui ne sont pas même touchés par le terrorisme doivent venir en aide. Parce qu'en Afrique, on est d'abord frères, donc on ne doit pas seulement se contenter sur les États Sahel pour lutter contre le terrorisme. Donc, là, il faut la volonté commune. Il faut que les dirigeants essayent de se retrouver, s'asseoir et voir... qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour combattre ces bandits de grand chemin. Si on prend ça, on a une potentialité humaine et matérielle et même voire dans le domaine financier. Donc il faut juste une volonté politique de tous nos chefs d'État qui doivent essayer de réfléchir et chaque pays doit conjuguer son effort, doit apporter son expertise ou sa force militaire pour qu'ensemble on arrive à lutter contre ces fléaux.
Donc vous pensez que
c'est un mal qui met en danger le développement de certains pays africains et donc on ne doit pas regarder les autres souffrir et que du moment où il y a la possibilité de venir en aide qu'on ne fait rien, je crois que cela ne favorise pas beaucoup plus la lutte contre le terrorisme. Donc j'interpelle d'autres dirigeants qui ne sont pas concernés de venir en aide à leurs frères pour qu'ensemble, chacun apporte sa pierre de contribution pour mettre hors d'état de nuire ces bandits de grand chemin.
D'accord. Donc si je vous comprends bien, tous ces pays, même ceux qui ne sont pas directement touchés, devraient contribuer en troupes, même financièrement et militairement.
Oui, justement, c'est ce qui doit être fait. Parce que on va dans d'autres pays, il y a une force militaire qui est là, une force même logistique en termes de renseignement. Tout ça, on doit mettre en disponibilité des pays, des États Sahel, ceux-là qui sont touchés. Et comme ça, vous allez voir qu'on ne parlera plus du tourisme au Sahel. Mais quand on est là, on parle, mais pratiquement, concrètement, sur le terrain, on ne vient pas en aide. Je crois que la lutte ne va pas vite s'arrêter et que, bon, ça va toujours mettre à mal le développement économique et même voir la vie des paisibles citoyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la population qui souffre, c'est la population qu'on tue tout le temps. Donc, je crois qu'on ne doit pas rester compté sur les pays étrangers ni la Barkhane, mais il faut la volonté politique au niveau, sur le plan... sur le continent africain et on arrivera à bout de cette lutte.
Merci beaucoup, Osana. Donc, je vais peut-être lire quelques commentaires avant de nous quitter. Jean-Marie nous dit qu'il faut couper les voies d'approvisionnement en matériel militaire, en ressources financières, les moyens de mobilité et les moyens de communication des djihadistes. Capitaine Lim nous dit seule la Russie est sincère dans la lutte contre les terroristes. Et puis Francis Sor, lui, il pense que si c'était avec les Américains, le terrorisme n'allait pas connaître cette expansion dans la sous-région. Fimba Yonli nous demande, il dit que sa question est de savoir
qui ravitaille les terroristes en armes et en vivres. Vous allez me dire que ça tombe du ciel. Alors, voilà donc quelques questions intéressantes. Et puis Bardo nous dit si G5 Sahel existait réellement, les terroristes n'auraient nulle part où aller. Merci beaucoup. Michel Joseph était à la mise en onde, présentation Abdelrahman Dia. Excellent week-end. Au revoir.